I understand, but still, can I not?
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants.
Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à deux pas du métro Berri-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales aux Francouvertes. Trois soirées surprenantes avec Jay Scott et Smitty Bakily, Laura Babin, Crab, Lou-Adrienne Cassidy, Gabriel Bouchard, Sam Fayet-Détrac, Morose, Laef et Zouz. Et les artistes invités Rosie Vallant, Danny Placard et Mondou Seigneur. Contribuez au choix des trois finalistes de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Plus d'informations à francouvertes.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
What's up? Joe RCA, baby, they dead OBs. Et vous êtes à l'écoute de Shut.
Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at.
La vie est un grand jeu.
Hey, à quoi on joue?
La vie est un grand, grand jeu.
Viens t'asseoir avec nous.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à La vie est un grand jeu, votre émission bi-hebdomadaire, où est-ce qu'on parle de jeux de société et de droit. Vous vous souvenez peut-être, si vous venez juste d'écouter mon podcast, ou peut-être la semaine dernière, qu'on a parlé du Code civil, de la structure du Code civil. On va un peu continuer là-dessus aujourd'hui. On va rentrer un peu plus à fond dans les détails de vraiment les thèmes qui sont abordés dans le Code civil, la structure du titre premier, le premier livre. On va pas aller plus loin que ça quand même. On va pas passer une éternité sur cette folie quand même. On va aussi parler de Winter Tales. C'est le jeu qu'on va aborder aujourd'hui. On va rentrer dans ce livre de règles-là, en parler un peu de comment le jeu nous suggère de construire notre histoire qui ressemble un peu à comment le Code civil est construit, bien entendu. Ça vous rend heureux, ça, n'est-ce pas? Je le savais. Et bien sûr, cette semaine, vous êtes vraiment contents. Hein? En plus de ça, vous l'avez deviné, j'imagine, c'est que notre collaboratrice est revenue nous rendre visite. Anne-Sophie Touga est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Anne-Sophie. Excuse-moi, Anne-Sophie, je t'ai même pas ouvert ton micro. Je suis vraiment désolé.
Oh, c'est pas grave. Content d'être avec vous. Merci, Jo, de l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir. Écoute, surtout que t'aies accepté l'invitation, malgré ta terrible aventure de la semaine dernière.
Ma très belle expérience d'il y a 2 semaines, en effet.
Super. Ben, avant d'écouter un peu plus ce que Anne-Sophie est venue nous présenter, je vais vous parler rapidement de ce qui mérite mention dans l'actualité. Bon, je dis l'actualité, mais je prends des faits qui restent assez généraux pour qu'on puisse en parler longtemps encore, puisque ça pourrait être en podcast que vous écoutez ça dans 3 ans. Sauf que celui-là, c'est le jeune barreau de Montréal qui tient sa clinique juridique téléphonique les 21 et 22 avril 2018 de 9h à 16h30. Bon, on s'entend, la semaine prochaine, ça va être fini ça, mais ils font ça à chaque année. Donc, c'est important de le savoir que cette populaire clinique juridique téléphonique organisée en partenariat avec le jeune barreau du Québec, le barreau du Québec, et le Centre d'accès à l'information juridique en est à sa 30e édition. Hein, donc, ça fait pas, ils n'ont pas commencé ça l'année passée, ça fait longtemps qu'ils font ça. Et ils vont répondre à toutes sortes de questions gratuitement, qu'il s'agisse des préoccupations liées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail. Bon, j'en passe. Si vous voulez plus d'informations, vous avez juste, et d'ailleurs, pas juste plus d'informations, si vous voulez participer à ça, c'est pas un lieu, hein, ça se passe en ligne, donc vous pouvez simplement appeler au 1-844-779-6232. Il y a 2 centres d'appel, donc à Montréal et à Québec, donc on devrait vous répondre, ne vous inquiétez pas trop. Soit dit en passant, le jeune barreau de Montréal a été fondé en 1898, donc ça fait quand même longtemps que cette association-là, qui regroupe des avocats qui ont 10 ans et moins d'expérience. Donc quand on dit jeune, là, ça veut pas dire qu'ils sont vraiment jeunes, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas 10 ans d'expérience, donc ils pourraient pas être nommés juges. Hein, le saviez-vous ça? Pour pouvoir être nommé juge, il faut avoir 10 ans d'expérience. Il y a eu un scandale il y a 2 ans à propos de ça, d'ailleurs, avec les conservateurs qui voulaient nommer un juge alors que cet avocat-là n'avait pas fait 10 ans. Mais il avait fait... En tout cas, c'est un peu compliqué. On reviendra là-dessus une autre fois. Le jeune barreau, donc, est là pour vous aider. Alors, on leur donne une bonne main d'applaudissements, je pense. Hein, ils méritent ça. Parce qu'ils n'ont pas encore les très gros salaires, faut dire. Hein. Et dans le monde du jeu, hein, cette semaine, j'ai reçu, et probablement plein d'autres gens au Québec ont reçu, le fameux The Seven Continent dont je vous ai parlé la dernière fois, un jeu fait de 800 cartes et plus. Là, ça n'a pas d'allure, ça m'a pris une demi-heure à classer toutes ces cartes-là.
Mais vous étiez content, je pense, déjà, de le recevoir.
J'étais très content parce que c'est un jeu très attendu qui ne s'achètera pas en magasin. Hein. La seule façon de pouvoir l'avoir, c'était de se le procurer sur Kickstarter. Très intéressant aussi, à Asmodee, une des plus grosses compagnies de jeux de société qui a la plus grande sélection, offre la ligne The Modern Classic, qui va regrouper des importants jeux qui ont redéfini ou qui sont encore pertinents, même s'ils ont quelques années derrière eux. C'est un petit groupe de titres d'avant-garde qui ont laissé un héritage durable sur le marché de jeux de société et ont résisté à l'épreuve du temps. Hein, on pense notamment à les Colons de Catan, Carcassonne, Dixit, Les Aventuriers du Rail, Pandémie et plus, et ces jeux-là ne pourraient ne plus être édités, hein, parce que le jeu de société, ça va vite qu'on n'édite plus des jeux. Et là, ils s'assurent un peu cette édition-là. Si vous un jour vous voulez vous partir une collection de jeux, vous pouvez passer par là. Ça commence très bien. C'est des classiques, là. Ça va très bien d'entrée de jeu. Des jeux faciles à apprendre, mais qui ont une bonne profondeur pour faire des stratégies. Asmodee, avec ça, nous aide à se faire une collection. Encore une fois, on est content, on l'entend. Comme je disais, Asmodee est une entreprise qui a été fondée en 95 et qui a pour objectif, à travers des jeux modernes et innovants, de dépoussiérer l'image classique du monde du jeu. C'est le plus grand catalogue parce qu'en fait, ils ont fait plein de partenariats avec plein de différentes compagnies comme Days of Wonder et The Man.
Never get along. I could write it on the paper. I could be
C'est maintenant le temps de parler de jeux de société. Cette semaine, on vous présente le jeu Winter Tales, un jeu narratif semi-coopératif. Ça veut dire que les joueurs racontent l'histoire pendant le jeu. Il y a deux équipes dans le jeu, deux factions et possiblement un auteur, si on est un chiffre impair. Comme ça permet à tout le monde de trouver sa place dans le jeu, même si on est un chiffre impair. Ça se passe dans un thème un peu fantastique avec des personnages bien connus des contes de fées, mais dans une ambiance d'horreur. Donc, c'est comme si ces fameux personnages étaient tombés sous le régime de l'hiver qui veut étouffer l'amour. Et pendant ce temps-là, les rebelles essaient de permettre le retour du printemps, hein, aussi connu comme la saison des amours. Ouais. Donc les personnages qu'on retrouve dans le jeu, hein, c'est des personnages de fantasy comme Blanche-Neige, le Lapin Blanc dans Alice, Lumignon, le Renard et le Chat, le Chapelier Toqué. Du côté de ça, c'est du côté de l'hiver, et du côté du printemps, on retrouve Pinocchio, Dorothée, mais en grand-maman, le Grincheux, la petite fille aux allumettes. Enfin, vous avez compris le principe. Toutes les actions du jeu, par contre, hein, la mécanique du jeu, comment ça fonctionne, c'est que les actions requièrent qu'on joue des cartes. Et pour jouer des cartes, il faut faire la narration autour de ces cartes-là. Et donc, on construit l'histoire en s'inspirant de ces cartes-là. Ça crée des petits bouts d'histoire. Les illustrations ont été faites par des enfants, deux enfants, un de 5 et un de 9 ans. Alors, ce sont des espèces d'illustrations un peu abstraites qui permettent de laisser aller son imaginaire, que ce soit en se servant de ces dessins-là comme des objets qu'on pourrait reconnaître, mais aussi des sentiments qui seraient révélés à travers l'histoire. Les deux actions vont créer des quêtes au cours de la partie qui deviendront des souvenirs de l'histoire que tous les joueurs créent ensemble. Hein, l'histoire, donc, c'est créé coopérativement, mais il y a quand même des gagnants parce que chaque quête va être remportée par une faction ou l'autre, et à la fin le pointage c'est en fait 3 points par souvenir remporté plus pendant l'épilogue là, la dernière phase il va avoir des points par carte jouée dans cet épilogue là. En général on joue avec 3 à 7 chapitres, 3 à 7 souvenirs parce que ça va influencer beaucoup la durée de la partie. Et maintenant on s'est dit moi et Anne-Sophie qu'on s'amuserait parce que dans le livre de règles, il y a des exemples hein, de comment une partie se déroule. Alors, on va faire une petite mise en lecture de ce merveilleux bout de jeu-là.
Digne d'un Oscar.
Digne, rien de moins. Petite note, on a pratiqué ce moment-là à absolument zéro fois. Donc, on embarque dans l'aventure,
on est à
comme
chaud.
On dit. On est à chaud, en effet. Ah. Alors, je vais faire la narration et quelques personnages. Anne-Sophie va faire l'autre bout.
On se met dedans. Concentration.
Non. Concentration, s'il vous plaît. Ah. Élodie active son personnage, pioche 3 cartes de narration et en défausse une pour emmener Dorothy sur la place qui sépare les deux sites. Le chapelier toqué d'Hervé. Ça, c'est un joueur Hervé, qui s'y trouve déjà, et il décide d'interrompre Dorothy et de déclencher une bataille.
Une lanterne à la main, le chapelier s'agenouilla devant un jeune orphelin, scrutant les yeux du gamin pour évaluer sa santé mentale. Il venait de quitter le vieux moulin, où il s'était livré à des expériences psychologiques sur l'enfant. Dans les yeux du petit, le chapelier toqué vit le reflet de grand-mère Dorothy. Celle-ci venait d'apparaître derrière lui. cheminant tant bien que mal dans les gravats recouverts de neige. Il se retourna et croisa son regard. Il sut qu'elle l'avait reconnu, impossible de se tromper, avec son chapeau haute forme et sa salopette ensanglantée. Il était le chapelier Toqué, directeur de l'asile pour criminels déments. Il s'approcha de la vieille dame qui semblait vouloir passer inaperçue. Malheureusement pour elle, il n'était pas du genre à manquer le moindre détail.
« Mère Grand,
dit-il,
qu'est-ce qui vous amène au cimetière à une heure si tardive? Oh, dit-il, je suis pas Mère Grand, en fait. Excusez-moi, je me suis trompé. Hein?
Ça fait partie de l'expérience.
C'est le chapelier Toqué.
Oui.
Mais oui, regardez ça. N'êtes-vous donc pas au courant du couvre-feu?
Voilà.
Oh!
Ajouta-t-il dans un murmure.
« Vous l'aviez oublié, sans doute. Votre esprit n'est plus ce qu'il était. Vous auriez besoin d'une thérapie. Suivez-moi, je prendrai soin de vous. Je vous garantis que vous recevrez toujours vos médicaments. » Hervé joue une carte de narration, médicaments. Il termine la phase 1 de la bataille et on passe à la phase 2. Élodie réagit.
Mais Dorothy était prête à tout. Elle plongea la main dans sa poche et en tira aussitôt un parchemin. « Monsieur le directeur, »
dit-elle en lui montrant le document,
« j'ai une autorisation spéciale signée par Stromboli en personne et qui me permet de sortir dans les rues après le couvre-feu. »
Élodie joue une carte narration, document. Un nouveau round commence et c'est au tour d'Hervé de jouer la phase 1. Berner un psychiatre n'est pas une mince affaire, en particulier lorsqu'il s'agit du chapelier Toqué, un homme habitué de déceler le plus infime signe de mensonge sur le visage de ses patients. « Crois-tu que tu peux vraiment me tromper, femme ? »
s'écria-t-il en se ruant sur elle.
Hervé joue une carte narration, visage. La phase 2 commence, mais Élodie décide de ne plus agir. Hervé remporte la bataille et Élodie couche le pion de Dorothée pour indiquer qu'elle est neutralisée. Hervé termine le récit de la bataille. Le chapelier Toqué saisit la vieille dame, paralysée par la peur d'avoir été percée à jour. Il décida de la jeter dans un des cachots de la prison où on l'interrogeait pour découvrir les plans des rebelles. Hervé prend le personnage de Dorothée et le place, toujours couché qu'elle est neutralisée, sur la prison de Givre. Et voilà. C'était notre lecture, hein, ma foi, d'un exemple de jeu. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous, hein, malgré notre nervosité et quelques cafouillades. Vous avez du plaisir, Anne-Sophie?
Ah, beaucoup!
Tant mieux, tant mieux. C'est ça l'objectif, après tout. Maintenant, si on laissait ça couler, hein, et rentrer dans nos souvenirs...
J'aimais ta peau dorée, toi qui me donnais tout de ta main délivrée. J'aimais la peau dorée, mais maintenant je pleure ton nom. Oui, maintenant je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois ont passé, les saisons. Mais moi, je suis resté le même, qui aime et qui attend que revienne le printemps. Qui aime et qui attend de reconnaître un jour le printemps. Nous ne nous
Et c'est le moment de discuter de droit. Eh oui, le droit. C'est fantastique, n'est-ce pas, le droit? Rapidement, parce que le temps passe le temps, et on veut quand même savoir l'opinion de Anne-Sophie sur Winter Tales, ce jeu qu'elle a essayé quelques fois. Donc, je voulais continuer un peu parler de la structure du Code civil, parce que c'est un peu la base de la compréhension. Des fois, ça a l'air épeurant de se promener dans le Code civil. Hein. On a l'impression que ça, on s'en sortira pas. Hein. Par où commencer, par où finir? Je vous l'ai dit déjà, le concept, c'est un entonnoir. Et on va regarder un peu, on a regardé le Code civil au complet la dernière fois, mais chaque titre, chaque livre à l'intérieur de cette grande loi-là est aussi en forme d'entonnoir. Le premier livre, ça parle des personnes, hein, du droit des personnes. Donc, c'est très général. Et le premier titre, ça s'intitule « De la jouissance et de l'exercice des droits civils ». Alors, ça met le contexte, hein, un peu comme quand on fait une histoire, comme dans Winter Tales. Dans le livre, il nous suggère de commencer la première carte qu'on dépose dans cet esprit-là de mettre un contexte général à l'histoire. Ensuite, le deuxième titre de ce livre premier, c'est « De certains droits de la personnalité ». Alors, dans le premier titre, on a déjà parlé de certains droits, on parlait de la bonne foi. Donc, c'est comment exercer ces droits, finalement? Comment on doit lire tout le reste qui suit? Hein? On peut pas juste interpréter comme on veut. Il y a une certaine règle d'interprétation qui vient avec tout ça, qui est inclus dans la loi. Le deuxième, le droit de la personnalité. Donc, le premier chapitre, par exemple, ça parle de l'intégrité. Hein? C'est important, l'intégrité. Ça, c'est la base de tout, hein. Tout ce qu'on fait, on veut que ce soit fait de façon intégrité, en respectant les gens les uns les autres. Et cette intégrité-là, elle est sous-divisée. Après ça, on parle du soin, de la garde en établissement, donc l'évaluation psychiatrique. Hein. L'intégrité, ça va toucher beaucoup justement les soins, parce que les soins, ce sont parfois des choses qui sont imposées aux personnes. Hein. Vous avez un accident de voiture, par exemple, vous êtes sur le bord de la route inconscient, mais comment on réagit? Parce que là, est-ce que le médecin doit faire telle procédure, vous donner du sang? Alors, c'est ça l'intégrité aussi, hein, l'intégrité de la personne. Si vous êtes en crise parce que vous faites une petite crise psychotique, par exemple, est-ce qu'on a le droit de vous interner? Comment c'est encadré tout ça? Et ça, c'est la base même. Hein? Même avant de savoir votre nom, c'est important ça. Et c'est important de dire ça. Hein? C'est-à-dire que toute personne au Québec qui vit ça, même si c'est pas un Québécois, a droit à ces choses-là. Hein? Et je dis votre nom parce qu'on parle du nom seulement beaucoup plus tard dans le livre premier. Hein, ça va être plutôt au titre 3. Et on continue dans le titre 2, par exemple, qui parle des droits de la personnalité avec, au chapitre 2, le respect du droit de l'enfant. Hein, ça, c'est très important, l'enfant. À partir de quel âge il a besoin, il a plus besoin du consentement de l'enfant, de ses parents. Puis c'est au Québec, on fait graduellement donner des responsabilités, de plus en plus de responsabilités à l'enfant. Donc, c'est pas à 18 ans, toutes ses responsabilités d'un coup. Avant ça, il y a quelques droits qu'il acquiert. Donc, il devient graduellement majeur, si on veut, en quelque sorte. Le chapitre 3, du respect de la réputation et de la vie privée. Hein, voyons, on va plus spécifiquement, on est parti assez général, donc ça touche tout le monde. Puis là, il y a des situations un peu plus précises qui se tracent, mais dans ce grand domaine du droit de la personne. Et enfin, le chapitre 4 de ce titre-là, le deuxième titre des droits de la personne, c'est le respect du corps après le décès. Parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère tout ça? Alors, c'est un peu comme ça qu'on a construit tout le Code civil. Après ça, si on parlerait des autres titres, mais je vais passer, parce que le deuxième titre, justement, on va parler du nom. Ensuite, on va parler de choses comme ça. Mais le temps passe. Et je me disais, j'ai préparé une petite surprise à Anne-Sophie, hein, sans lui dire. La petite lecture qu'on vient de faire m'a inspiré. On pourrait faire la même chose, mais avec de la jurisprudence en lien avec ce dont on vient de parler. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Sophie? Hey, ça l'a tellement excité.
prenez le temps de remettre la mousse, là. On en a perdu sa mousse, hein. Donc,
c'est l'émoi. C'est l'émotion. Mais je suis de retour.
Alors, ben, avant, là, vu que c'est une surprise, hein, c'est tout le temps à double tranchant, faire des surprises à des gens en direct, on va se permettre
une
petite chanson qui s'appelle Double tranchant. D'ailleurs, j'ai présenté aucun de mes artistes aujourd'hui. Je suis pas très fier. Je vais revenir de ça après cette chanson-là. On écoute Double tranchant, interprété par Monk E. Et sur son album Couronne à double tranchant.
Double tranchant. Parfois il se dépose et c'est sanglant. Le front, les frontés qui front finit ensemble. Un siècle uni, ensemble on s'entend. Les cris de gloire et les cris de peur, les victoires, les histoires, brise cœur dérisoire. Elle brille fort ou elle brille peu. Préhistoire et futur pour vivre mieux. Please God. Ce que je veux dire, c'est que la couronne coupe, je donne tout. Un homme doute, mais somme toute, je ferai bonne route. Je serai couronné, car j'ai tout donné. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou jamais. Ce que je veux dire, c'est que la couronne coupe, je donne tout. Un homme doute, mais somme toute, je ferai bonne route. Je serai couronné, car j'ai tout donné. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou jamais, car je dis.
Alors, avant de se lancer, quand même, on va faire une petite mise en contexte. La jurisprudence qu'on va lire, c'est une décision au sujet d'une cause qui en atteinte à la réputation entre le Média Vigile Québec. Plus précisément, là, dans l'extrait, on va entendre Richard Le Hire et Maître Chiara, qu'on a associé à la corruption. Donc, Maître Chiara attaque Vigile Québec. On écoute Anne-Sophie se lancer.
Après avoir cité un article du journal Le Devoir dans lequel apparaissent les noms de certaines personnes composant le club des gouverneurs de la Fondation, dont le nom de Maître Chiara, Richard Le Hire écrit:
vous êtes probablement frappé autant que moi par le nombre de personnalités bien connues que l'on retrouve dans ces quelques paragraphes, tout comme vous êtes également frappé par le nombre d'entre eux dont on a appris dans les derniers mois qu'ils étaient compromis dans des affaires de corruption. Maître Vincent Chiara a également le douteux privilège d'avoir été associé au scandale de la SHDM et le hasard, qui fait si bien les choses, veut également qu'il ait été le propriétaire de l'immeuble de Saint-Léonard dans lequel aurait été exploité le casino clandestin qui avait fait l'objet de la surveillance de la police dans le cadre du fameux projet Colisée, à l'issue duquel les corps policiers avaient porté un coup dur à la famille Rizzuto.
Maître Chiara prend connaissance de cet article le lendemain ou le surlendemain de sa publication. Il est bouleversé, enragé et peiné. Il a une pensée pour son père, pour sa conjointe, ses deux enfants, alors âgés de 8 et 9 ans, ses collaborateurs, partenaires, banquiers et associés. La journée même, il en discute avec un proche collaborateur, Pierre-Jacques Lefebvre, vice-président du développement immobilier chez MAC.
Mash.
Tous deux conviennent d'attendre de voir l'évolution de la situation avant de réagir plus amplement. À son retour à la maison, il a sensiblement la même discussion avec sa conjointe. Dans les jours suivants, il discute également de l'article avec Lino Saputo. Monsieur Saputo comprend la réaction de Maître Chiara et le réconforte.
Hey, c'était quand même moins palpitant que la mise en scène du jeu de société, on va se le dire, hein, quand même, c'est drôle tout ça. Il nous reste une petite minute pour parler du jeu, hein, de nos perceptions, de comment on a aimé ça. Tiens, je vais commencer, on va parler des composantes. Hein? Le jeu, les personnages sur le plateau de jeu, c'est des petits Stanley qu'on appelle, donc des bouts de carton qu'on met dans des trucs qui se tiennent debout à l'effigie. Donc c'est quand même de la bonne qualité. Hein?
Oui.
Les trucs sont assez épais. Les cartes sont belles, les dessins sont magnifiques.
Les dessins.
Hein? Tous les personnages sont très très beaux. Toutes les cartes sont de bonne qualité. Les règles, qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Sophie? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça marche?
Ça dépend énormément des personnes avec qui vous jouez. Il faut être dans un certain état d'esprit, je pense, pour avoir du plaisir, et on en a eu beaucoup. Les premières minutes sont un petit peu difficiles parce qu'on hésite à développer beaucoup dans nos histoires, dans notre narration, à donner des voix, à donner des détails, mais on finit souvent par créer des histoires assez rocambolesques.
Hey, super! Eh bien, c'est ce qui m'a